De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés sur la terre. En Marc, chapitre 2, verset 5. Tes péchés sont pardonnés. Bienvenue à chacun et à chacune. Ce soir, nous allons approfondir le cycle 2 d'approfondissement sur la notion de confession. Voilà, le sacrement de la réconciliation, le sacrement de confession. Nous allons méditer cela. Nous allons l'élargir à la notion de conversion et de conversion permanente, de pénitence, la composition du sacrement de la confession. Comment on se confesse, pourquoi un prêtre, voilà, etc. Toutes les questions qu'on peut se poser ou qu'on peut objecter quand on a peur d'aller se confesser ou que même certaines personnes plus ou moins distantes avec l'Église poseraient comme question immédiate. Pourquoi l'Église demande-t-elle qu'on se confesse à un prêtre? Quel est l'intérêt? Est-ce que Jésus a voulu ça? Est-ce qu'il ne faut pas passer directement par Jésus? Voilà, plein de questions qu'on entend. Donc on va creuser cela aujourd'hui. En méditant un petit peu ce que dit l'Église, essentiellement je m'appuierai sur ce que dit le catéchisme de l'Église catholique dans sa deuxième partie sur les sacrements. Voilà. Vous pourrez aller voir dans les numéros 1400 et quelques, 1430 et suivants, voilà, pour être précis, 1422 et suivants. Et aussi je m'appuierai sur le peu d'expérience que j'ai en tant que confesseur, le témoignage de certains saints et l'Évangile. Tout d'abord, dans l'Évangile, ce qui est important, c'est d'entendre que la notion de conversion n'est pas une option. Voilà. Et que peut-être, on a du mal, peut-être aujourd'hui, on est à l'aise à entendre « Jésus est bon » et je crois que c'est premier. Dieu est miséricordieux et c'est premier. Mais Dieu nous invite à la conversion. Et une fois que nous sommes convertis, à la conversion permanente. Et c'est pas une option, c'est véritablement le chemin de l'Évangile. D'ailleurs, le Seigneur le dit dans saint Marc et dans tous les Évangiles, « Convertissez-vous, le royaume des cieux est proche. Convertissez-vous. » Donc, il y a un appel à la conversion permanente de la part du Seigneur. Voilà, le retournement, celui qui se convertit, il fait en grec, le retournement en grec, c'est la métanoïa, changement de vie. L'objectif est tourné vers Dieu, l'agir est tourné, redressé vers Dieu avec la grâce, et il y a une haine du péché. Voilà. C'est aussi ce que nous entendons quand nous demandons le baptême à quelqu'un, qui est vraiment un sacrement de conversion. Voilà. Nous changeons de vie, nous adhérons au Christ. Nous avons eu récemment des baptisés adultes. Et donc, ils ont prononcé leur foi chrétienne, mais avant de prononcer la foi, le credo chrétien, le ministre leur a dit « Renoncez-vous à Satan ?» Oui. « Renoncez-vous à tout ce qui conduit au péché ?» Oui. « Renoncez-vous aux séductions du monde ?» Oui. Donc, on est dans une attitude de rejet de toutes les œuvres démoniaques, de rejet de toute forme de péché qui conduit au mal ou de toute forme de séduction. Ça, c'est le chemin de la conversion, le chemin du baptisé, qui le vit une fois fortement par le baptême et qui est invité à persévérer dans son baptême par une conversion continue, parce qu'avant le baptême et de manière particulière après le baptême, il va vivre un combat intérieur qui est le combat spirituel. Voilà. Ce combat spirituel, nous dit l'Église, est important. Et il nous faut reconnaître que sur ce chemin de conversion, l'homme reste toujours, malgré le baptême qu'il a réconcilié avec Dieu, dans l'amitié divine, qui lui permet de vivre dans la grâce de Dieu, il n'en demeure pas moins que l'homme reste marqué par une forme de faiblesse interne à faire le bien. « Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, je fais le mal que je ne voudrais pas faire », dit saint Paul. Ainsi, l'Église nous enseigne dans le catéchisme numéro 1426, la vie nouvelle reçue dans l'initiation chrétienne, c'est-à-dire le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, n'a pas supprimé la fragilité et la faiblesse de la nature humaine, ni l'inclination au péché que la tradition appelle la concupiscence, qui demeure dans les baptisés, pour qu'ils fassent leur preuve dans le combat de la vie chrétienne aidée par la grâce du Christ. Ce combat est celui de la conversion en vue de la sainteté et de la vie éternelle à laquelle le Seigneur ne cesse de nous appeler. Donc il y a une participation au don que nous avons reçu du baptême qui est notre conversion permanente. Voilà. Et qu'il y a un foyer en nous du péché possible, que la tradition de l'Église appelle la concupiscence, qui fait que si nous ne sommes pas dans une attitude sans cesse de conversion, nous risquons d'être réenvahis par le péché. Voilà. Donc ça, c'est important. Saint Jean est bien lucide sur cette question, l'apôtre Saint Jean qui dira dans sa première épître, « Si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous abusons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. » Et oui, nous nous rendons compte vite que ce combat, nous en remportons des victoires, mais pas complètement. Et donc, le péché est là. Et quand le Seigneur nous a appris en le Notre Père, en Luc 11, il nous enseigne aussi, pardonne-nous nos offenses. Dans le combat, dans cette lutte intérieure de renoncement au péché, il va falloir s'appuyer sur la grâce de Dieu pour mendier la miséricorde du Seigneur. Pardonne-nous nos offenses quand nous allons tomber. Alors, le sacrement de la réconciliation, nous allons voir, il a plusieurs noms, il s'appelle le sacrement du pardon, de la confession, de la pénitence, de la conversion, sacrement de la conversion, très intéressant ça, de méditer ça. C'est une grâce qui est donnée à tout baptisé pour réactualiser son baptême. Voilà. Ce qui est donné au baptême, c'est le pardon de toutes les fautes. Une personne qui reçoit le baptême reçoit l'effacement de toutes ses fautes dans la mort et la résurrection du Christ. Le baptême, baptisein en grec, c'est être plongé dans la mort et la résurrection. Donc, il y a un effacement total. Mais je vous disais, il y a ce foyer de concupiscence qui fait que ça peut retomber. Et pour mener le bon combat, nous avons besoin de la grâce de Dieu, la prière, un esprit, on va voir, de pénitence, de conversion. Mais quand nous tombons, la grâce va effacer le péché de notre âme, complètement remise à zéro, et ça, c'est la grâce du sacrement de la confession, qui est une réactualisation pour les baptisés. On repart à zéro. Voilà. En fait, on ne repart pas tout à fait à zéro, c'est un envahissement de la miséricorde qui nous fait avancer plus en avant dans la grâce de la miséricorde. Mais effectivement, ça renettoie l'âme comme au jour du baptême. Voilà. C'est une petite résurrection. Voilà. Ça, c'est vrai. Cette grâce de la conversion, c'est notre participation à Dieu, mais c'est aussi l'œuvre de Dieu en nous. Et c'est pour cela que le sacrement de la réconciliation, c'est d'une manière éminente, pas la seule, mais d'une manière éminente, l'action de Dieu en nous. Si je reçois son pardon, je serai capable de me pardonner. Si je reçois sa guérison, je serai guéri. Si je reçois son pardon, je pardonnerai et je serai relevé. Il y a une force divine qui passe en nous et qui nous aide à avancer. Voilà. La conversion n'est pas que notre œuvre. Elle est l'œuvre de Dieu. Nous allons rentrer maintenant dans le sacrement de la réconciliation. Je reviendrai après sur cette notion de pénitence, sur cette notion de croix, etc. Ce qui me semble important, tout d'abord, c'est de méditer sur ce qu'est le péché. Nous en avons déjà parlé quand nous avons médité le péché, la souffrance, le mal, mais reprenons un peu ce que dit l'Église dans le numéro 1440 sur le péché. Le péché est avant tout offense à Dieu. Rupture de la communion avec lui. Il porte en même temps atteinte à la communion avec l'Église. C'est pourquoi la conversion apporte à la fois le pardon de Dieu et la réconciliation avec l'Église. ce qu'exprime et réalise liturgiquement le sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Ça, c'est très intéressant. Souvent, on croit que notre confession, c'est qu'avec Dieu. En fait, c'est avec l'Église. Il y a quelque chose qui se joue avec l'Église. Voilà. Sans dramatiser quoi que ce soit, mais pour nous aider à comprendre cela, il y a des péchés qui sont tellement graves, qui nous coupent de l'amour de Dieu. On appelle ça des péchés mortels. Très bien. Mais il y a les mêmes péchés qui nous excommunient. Recevoir le pardon de Dieu nous remet dans la vie de grâce, mais nous intègre à nouveau dans la communion ecclésiale. Donc on voit que le péché attaque tout ce qui est communion. Communion avec Dieu et communion avec les hommes, et de manière particulière, communion à l'Église. Donc ça nous invite à méditer que notre conversion permanente, depuis notre baptême, c'est l'œuvre de Dieu, c'est notre collaboration à sa grâce, avec ses moyens et notre bonne volonté réaliste qui s'engage, avec tous les efforts qu'on peut faire, mais ça a des incidences sur les autres. Une âme qui s'élève, élève le monde, élève l'Église. Une âme qui s'abaisse, abaisse le monde, abaisse l'Église. Donc nous sommes responsables, pour une part, de l'état de l'Église. Eh oui, ça dépend de notre conversion. C'est ce qu'on a dit un jour à Mère Teresa. Un journaliste lui a dit, Mère Teresa, c'est très bien ce que vous êtes. C'est très très bien, mais l'Église, faudrait évoluer quand même. Faudrait s'améliorer. Et la Mère Sainte de répondre, c'est vrai, je commencerai par deux choses. Je me convertirai, puis vous vous convertirez. C'est tout à fait juste. Voyez, la conversion va toucher notre communion à Dieu et la communion à l'Église. Et la réconciliation dans le sacrement va nous aider à nous réintroduire dans l'amour de Dieu et nous réintroduire dans l'amour de l'Église, dans la communion ecclésiale. D'ailleurs, des fois, entre frères et sœurs, on ne peut pas s'encadrer. On ne peut pas se voir, même pas sur une photo. Avec le temps, le pardon, on arrive à pardonner à tel prêtre, à telle sœur, à tel frère. Bon, c'est très concret. C'est très concret. Quelqu'un qui sans arrêt dit du mal des autres, même dans l'Église, il a vraiment besoin de goûter l'amour de Dieu qui lui donne son pardon et qui va l'aider à voir de manière juste le mystère de l'Église, à retrouver sa place. Et il y a quelque chose de vrai. Quand notre cœur se réduit à nos réseaux un peu mondains, à la fin de la messe ou autre chose, est-ce qu'il n'y a pas là une usure du cœur évangélique qui a réduit simplement à la dimension humaine de l'amour, et pas chrétienne, qui est d'aimer tous les autres d'un amour égal au nom du Christ? Donc, peut-être le coup de nettoyer ça dans le sacrement du pardon, pour retrouver la pleine communion ecclésiale en pratique. On retouche des choses de cet ordre-là. Dieu seul pardonne. C'est très important, Dieu seul pardonne. Et nos frères aînés juifs ont compris ça rapidement en méditant, en recevant la révélation, en méditant le Seigneur, en priant le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Dieu seul pardonne les péchés. C'est ce que est dit à l'Évangile selon saint Marc, chapitre 2, verset 7. Dieu seul pardonne les péchés. Ce qui est étonnant, c'est que ces mêmes frères aînés vont découvrir, de manière étonnante, que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés sur la terre. Le Seigneur a le pouvoir de pardonner, parce que le Seigneur Jésus est Dieu en personne, et qu'il peut pardonner, et que le pardon passe par les gestes qu'il pose sur les personnes et sa parole. Tes péchés sont pardonnés. Voilà. Il a ce pouvoir-là, qui est un pouvoir immense, qui n'est accordé qu'à Dieu. Même les anges, même les saints et le démon n'ont pas ce pouvoir. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Pour les grands théologiens, l'œuvre du pardon est plus grande que l'œuvre de la création. L'œuvre de rédemption est une recréation, c'est le pouvoir de Dieu par excellence. C'est grand. L'Église nous dit, c'est en vertu de sa divine autorité que le Christ pardonne. Et c'est en même vertu de sa divine autorité qu'il va donner ce pouvoir aux hommes pour qu'ils l'exercent en son nom. Et c'est très important que nous nous arrêtons là pour poser un acte de foi sur le fait que le Seigneur Jésus a voulu que se continue ici-bas son œuvre de pardon. C'est bon de méditer cela le jour de la divine miséricorde. Et c'est certainement une tentation démoniaque aujourd'hui de penser que Dieu n'a pas voulu passer par son Église pour pardonner. C'est un rétrécissement de la conception de la miséricorde. C'est une tentation qui guette tout chrétien et tout homme. Et il est bon d'entendre la parole de vérité, l'Évangile, qui nous redit avec clarté ce que Dieu veut. Alors je cite le verset qui, je crois, éclaire toute chose. Le Christ ressuscité apparaît aux 12 apôtres. Et en Jean 10, versets 22-23, voilà ce qu'il dit. « Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et leur dit « Recevez l'Esprit Saint », donc une effusion du Saint-Esprit, en vue d'une mission. « Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Le Seigneur Jésus, qui est Dieu, et Dieu seul pardonne, de sa divine autorité, donne mandat aux apôtres pour pardonner en son nom. Vous avez là le fondement du sacrement de la réconciliation. C'est Dieu qui a voulu cela. Ce n'est pas l'invention des hommes. C'est une tentation, je disais, démoniaque, de croire que c'est l'inverse. Ça arrange bien notre cher ami, notre cher ennemi, de faire croire cela, parce que ça évite les hommes d'aller à la miséricorde. Or, si nous écoutons la parole de vérité, Dieu a dit cela. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Il a donc donné autorité, mais plus encore, il a voulu que son pardon passe par la médiation ecclésiale. Ce n'est pas Dieu direct. Là encore, nous allons voir, c'est une tentation qui a entraîné le relativisme et du relativisme, la perte du sens du péché et de la perte du sens du péché, la perte du sens de la conversion. Mais finalement, on s'en porte bien. Donc il y a un vrai enjeu d'accueillir pleinement le Seigneur ressuscité dans son commandement, en pensant véritablement que là, le Seigneur nous demande un acte de foi fort. Le Seigneur l'a voulu ainsi. Donc c'est bon. Et nous allons voir par la suite en quoi c'est bon et c'est même mieux. Et ça permet plus de rentrer dans le mystère de la miséricorde. Mais voilà, il est important d'abord d'entendre que là, il y a un fondement scripturaire, la parole de vérité, la volonté de Jésus. Ce n'est pas voulu par les hommes, ce n'est pas l'Église qui manipule, c'est Jésus qui a voulu cela. C'est Dieu qui a décidé cela. Donc c'est l'autorité divine. Et l'autorité divine, aucun homme ne peut le remettre en cause. Sinon, il se prend pour Dieu. Que nous dit l'Église dans son numéro 1442 ? Le Christ a voulu que son Église soit tout entière dans sa prière, sa vie et son agir, le signe et l'instrument du pardon et de la réconciliation qui nous a acquis au prix de son sang. Il a cependant confié l'exercice du pouvoir d'absolution au ministère apostolique. Celui-ci est chargé du ministère de la réconciliation. Vous voyez ça en 2 Corinthiens 5, on parle du ministère de la réconciliation. L'apôtre est envoyé au nom du Christ, et c'est Dieu lui-même qui, à travers lui, exhorte et supplie. Et l'apôtre dira au nom du Christ, donc Dieu à travers lui, « Laissez-vous réconcilier avec Dieu. » 2 Corinthiens 5. Je développe ces éléments pour vous montrer la puissance que Dieu a donnée à son Église, non pas pour la rendre dominatrice, mais pour que Dieu répande sa miséricorde à tout homme, de manière très accessible. Mais c'est en même temps bouleversant, parce que c'est une très grande responsabilité de la part de l'Église. Je cite encore deux numéros. En donnant part aux apôtres de son propre pouvoir de pardonner les péchés, le Seigneur leur donne aussi l'autorité de réconcilier les pécheurs avec l'Église. Cette dimension ecclésiale de leur tâche s'exprime notamment dans la parole solennelle du Christ à Simon-Pierre, en Matthieu 16, 19. Je cite « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié aux cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. » Cette même charge, nous dit l'Église, de lier et de délier qui a été donnée à Pierre, a été aussi donnée au collège des apôtres, unis à leur chef. Et l'Église, de continuer, le mot lier et délier signifie « Celui que vous exclurez de votre communion, celui-là sera exclu de la communion avec Dieu. Celui que vous recevrez de nouveau dans votre communion, Dieu l'accueillera aussi dans la sienne. La réconciliation avec l'Église est inséparable de la réconciliation avec Dieu. » C'est extrêmement fort. Dieu a donné le pouvoir à l'Église de réconcilier les hommes avec Dieu. Et si l'Église ne le fait pas, les hommes ne sont pas réconciliés avec Dieu. Il y a une forme de toute puissance du pardon accordée aux apôtres. C'est énorme, ça paraît démentiel, mais le Christ a voulu cela. Voilà. Le Christ a voulu cela. Donc, prenons-le au sérieux. Nous pouvons vraiment admirer cela dans l'action de Dieu et mesurer que la toute-puissance de Dieu, elle s'exerce à 50 mètres parmi nous. C'est vrai, mais c'est grand. Alors, rentrons maintenant un petit peu dans le sacrement. Donc voilà, si je disais cette première partie-là pour que nous soyons en paix et que nous accueillions dans la foi que Dieu l'a voulu ainsi. Je vais dire quand même des éléments avant de rentrer peut-être dans la structure du sacrement pour dire pourquoi c'est si bien ainsi. Ce sont des éléments que je développe. On pourrait en trouver bien d'autres, mais je vais les développer ainsi, un peu de par expérience. La première chose, c'est que le Seigneur a voulu que le salut passe par médiation. Il se révèle à Abraham, il se fait connaître aux patriarches, aux prophètes, il se révèle pleinement en Jésus-Christ, qui choisit des disciples, des apôtres, se fait connaître par eux, etc. Jamais le salut ne vient de manière infuse, directe. J'allais dire en wifi direct. Ça arrive des fois. Le Christ le fait avec Paul. Mais à un moment donné, 3 ans après, il va voir la confirmation à Jérusalem auprès de Pierre et Jean pour voir, comme il le dira, s'il n'a pas couru en vain. Donc le Seigneur veut passer par les médiations. Il a voulu que l'évangélisation se propage non pas par sa pure action toute seule, mais par l'action conjointe de la sienne et de celle des hommes. Donc le salut passe par médiation. Et nous savons qu'une grande part du salut, c'est le pardon des péchés. Donc ça passe aussi par médiation. Donc le Seigneur a voulu que ça passe ainsi. Et donc c'est pour ça qu'il a fait ce mandat missionnaire, Jean 20. La médiation, c'est le prolongement de l'humanité de Jésus. Dans le ministre, vous avez le prolongement de l'humanité de Jésus. C'est le Christ qui monte au ciel à l'ascension n'est plus là. Le ministre, évêque, prêtre, dans le sacrement du pardon, c'est l'incarnation de Jésus. Ah, il n'est pas divinisé, le prêtre. C'est un petit prêtre qui a lui-même besoin de la réconciliation. Mais il ne dit pas « Jésus te pardonne tes péchés ». Il dit « Je te pardonne tes péchés ». Et l'Église nous dit qu'il agit in persona Christi, dans la personne du Christ. À ce moment-là, c'est vraiment le Christ. Vous changez le visage, c'est Jésus. Donc, il y a bien un prolongement de l'humanité de Jésus qui passe par là. Voilà. L'Église ici-bas continue l'incarnation du Christ. Et continue à donner le salut par médiation. Et ça, c'est très important de saisir cela, parce que nous sommes profondément catholiques, chrétiens catholiques, nous croyons à l'incarnation dans l'Eucharistie, croyons-la au maximum dans la confession. Souvent, nous sommes plus protestants sur la confession, très catholiques sur l'Eucharistie. Soyons catholiques sur tout, croyons à l'incarnation réelle, et que Dieu veut passer par les sens, le toucher, la médiation. Ça, c'est le réalisme de l'incarnation. Voilà. C'est le réalisme profond du christianisme. Cette grâce-là est très bien. Enfin, elle est très humaine. Elle est vraiment voulue par Dieu. Pourquoi ? Parce que premièrement, Dieu sait que l'homme a besoin d'entendre Dieu dans un langage humain. C'est pour ça qu'en son temps, il s'incarne et lui parle avec des mots simples. Parce que l'homme a besoin d'entendre son Dieu lui parler simplement. Et quand Jésus parle, ben c'est Dieu, et il nous parle avec une bouche humaine. Il pose des gestes humains, et nous en avons besoin. De la même manière, nous avons besoin, dans le pardon, d'entendre une voix humaine et un geste humain, parce que nous sommes des hommes et des femmes qui ont besoin d'avoir un contact simple avec Dieu, et qu'un contact dans l'invisible risquerait parfois de nous tromper, d'être dans l'imaginaire, et de même d'être dans l'incertitude. Ai-je vraiment été pardonné ? Dieu nous accorde la certitude humaine par la médiation humaine. Le pur spirituel n'apporte jamais de certitude. La certitude du christianisme, c'est le spirituel incarné. Là, c'est du dur. Vous pouvez bâtir votre foi. Même les grands mystiques disaient « Ok, mais on va vérifier si l'Église dit ça. » Ça, c'est du solide. Voyez, ben, c'est pareil. Je veux recevoir le pardon de Dieu dans l'incarnation du sacrement. Il y a quelque chose là de la certitude humaine qui passe. J'ai entendu une parole par un tiers, le ministre me dire « Je te pardonne tes péchés ». C'est vrai, je n'ai pas à douter, c'est vrai, je l'ai entendu. Vous pouvez en être sûr. Ça, c'est important. C'est une pédagogie humaine aussi. Dieu nous connaît bien, il nous connaît très bien. Donc, en nous parlant par le ministre, il nous donne des moyens thérapeutiques pour grandir en la charité et rejeter le péché. Nous avons besoin de guérison et le prêtre est le ministre de la guérison. Le Christ dira « Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais les pécheurs, pour les malades. » Et le sacrement de la réconciliation est un sacrement de guérison. C'est un des deux sacrements de la guérison. Il y en a 7 sacrements. Il y a 3 de l'initiation, baptême, confirmation, eucharistie. 2 de la communion, qui sont l'ordre et le mariage. 2 de la guérison, l'extrême onction, le sacrement des malades, et le sacrement de la réconciliation. C'est la guérison spirituelle. Cette guérison, par la médiation, elle utilise tout son potentiel. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un médecin des âmes qui nous enseigne à rejeter le péché, qui nous éclaire. Vous voyez, sans la médiation humaine, le sens moral est bien souvent atrophié. J'ai ma vision des péchés. Ça m'arrange de ne pas trop dire que ça, c'est un péché. Voilà. Et puis le Seigneur, comme il ne dit rien dans la prière, je continue. Eh ouais. Et au bout d'un moment, il y a une réduction du champ de ce qui est le péché ou de ce qui est le bien. Et généralement, on s'arrange toujours à limiter à ce qu'on veut. Tandis que quand on est dans un tiers, avec une vraie médiation, une incarnation de l'action du Christ en direct, on est dans une forme d'objectivité. Le tiers parle, il y a une altérité. Et là, il peut me dire, non, ça, c'est pas un péché, vous vous trompez. Par contre, ça, c'en est un. Ah, éclairage des consciences. On n'est plus dans le relativisme. Voyez ? Ça repermet d'avoir une forme d'objectivité. Ça, c'est une guérison. Et le Seigneur le sait. Notre penchant, il est toujours au minimum du dénominateur commun. Donc, la confession, par le prêtre, nous permet d'élargir notre conscience, notre examen de conscience, d'être plus vrai. Ça ne va pas nous accabler, mais ça nous affine. Je dis souvent ça, la personne qui dit « Mais mon père, je n'ai pas de péché. » Oui, mais la conscience, elle n'est pas éclairée, là, mon ami. Il va falloir éclairer la conscience. Il ne s'agit pas de s'accabler des péchés. Ça s'agit d'apprendre à discerner et que peut-être tout seul, on n'y arrive pas vraiment. Voyez, on va parler de l'examen de conscience, mais la médiation sert à ça. La médiation est contact avec Jésus et certitude du pardon. Mais elle est plus que ça encore. Elle est contact avec le ressuscité, avec le crucifié, le ressuscité. Parce que là, il s'agit d'un sacrement. Il ne s'agit pas simplement d'une demande de pardon, il s'agit d'un sacrement. Et donc, il y a un pouvoir de purification donné, envoyé par le Christ ressuscité qui dit « Vous pardonnerez ses péchés », la personne est plongée dans la mort du Christ à ce moment-là, à nouveau. Elle est renouvelée dans son baptême, mais qui la relève, c'est le Christ ressuscité. Et généralement, à la fin du sacrement de réconciliation, la personne sent une paix, sent une force et un nouveau désir de combattre le péché et de faire le bien. Ça l'a relevé. Ça, c'est une force. Et ça, ce n'est pas produit par nous. C'est l'œuvre de Dieu. Voyez ? Donc, au niveau spirituel, il y a de l'énergie. C'est vivant. Au niveau humain, c'est éclairant. C'est pédagogique. Au niveau de la conscience, il y a une certitude d'être pardonné. Donc Dieu a voulu cela ainsi parce que c'est bon. Ah oui, mais mon Père, c'est très humiliant. Eh bien, c'est très bien. Parce que l'humilité, c'est la vérité. L'étymologie de l'humilité, c'est humus, c'est-à-dire c'est la terre. Et le pape François disait que le sens de la culpabilité était très bien. Ça nous apprenait à nous reconnaître pécheurs. Ça nous apprenait à regretter le mal. Et c'est très important. Celui qui n'a plus le sens de la culpabilité, il est en mort spirituelle. Il n'a pas le sens du rejet du péché. Vous voyez ? Il ne s'agit pas d'être terrassé. Et là encore, le sacrement de la réconciliation fait beaucoup de bien. Vous avez des gens qui sont écrasés par leur péché, mais ils sont de nature extrêmement scrupuleuse. Ou qui n'arrivent même pas à dépasser le péché déjà pardonné. Hein, ce qu'on fait, c'est qu'ils vont ressortir le péché qui a 50 ans. Mais ça a déjà été pardonné. Et là, le bon confesseur peut dire, ça suffit. C'est fini, ça. Et c'est très guérissant. Parce que la personne, elle avance. Elle n'est pas capable elle-même d'avancer. Elle a besoin que le Seigneur ressuscité la pousse un peu pour avancer. Comme dirait saint Paul, oubliant le chemin parcouru, je suis tendu vers l'avant. Voyez ? Et ça, c'est encore le tiers qui peut le faire. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, par le péché, il est un handicapé. Il a des failles, que ce soit le scrupule, que ce soit le repli sur lui-même, que ce soit le relativisme, que ce soit la lutte médiocre du péché véniel. Plein de choses. Il a besoin de la médiation pour l'aider. Voyez, c'est un lieu médicinal. C'est un lieu qui fait grandir. Donc c'est très important. Si vous avez une trop forte proportion à freiner le sacrement, genre, c'est comme la prière. Oh ben je prierai demain. Finalement on ne prie pas, on a plein de choses à faire. C'est marrant, quand on veut prier, il y a toujours plein de choses à faire. J'irai me confesser ce soir. C'est marrant, mais il y avait trop de monde. Finalement je suis parti avant. Finalement on n'y va pas. Mais pour commencer, ça arrive ça. C'est tout à fait normal. Ça s'appelle le combat spirituel. Il faut se décider. Il faut se décider à aller se confesser. Vaille que vaille, coûte que coûte. Parce qu'effectivement, ça va coûter. Effectivement, il y en a un surtout pas qui veut nous enlever notre poids. Il va nous faire croire que notre poids, on est si bien avec. Mais non. Il faut l'enlever. Mais ça coûte. Et à ce moment-là, au moment d'y aller, il va nous faire sentir combien ça coûte. C'est pas si vrai que ça, mais ça devient des proportions énormes. Voyez ? Notre sœur qui est parmi nous pourrait dire « Nos catéchumènes vivent cela au moment du baptême, qui est le grand sacrement du pardon. » À un moment donné, ça coûte. Il y a quelque chose qui est dur. Ben, c'est pareil pour nous. Le sacrement de la réactualisation du baptême, la confession, ça coûte. Mais c'est parce qu'il y a des combats spirituels, c'est une bonne chose. Il faut se décider, il faut être ferme, il faut y aller. Il faut y aller. Ça, c'est très important. Je dis quelques éléments sur les appellations du sacrement et je rentre dans sa structure après. L'appellation du sacrement de la réconciliation s'appelle, nous dit l'Église d'abord, très intéressant, on ne le dit jamais. Là j'apprends vraiment, en tant que prêtre, j'apprends quelque chose. Le sacrement de la conversion, puisqu'il réalise sacramentalement l'appel de Jésus à la conversion. Très intéressant. C'est le sacrement de la conversion. Frères et sœurs, je le dis pour moi, je le dis pour nous. J'ai entendu récemment un évêque qui disait que le sacrement de la nouvelle évangélisation, c'est le sacrement de la réconciliation. À titre personnel, j'en suis convaincu, nous ne pouvons pas aller régulièrement à la réconciliation sans se convertir. Par contre, nous pouvons aller à l'Eucharistie sans la réconciliation, sans jamais nous convertir. Parce que la réconciliation implique l'humilité, la découverte de ce qu'on est, la lutte du péché et la décision de renoncer à ça. Et ça, forcément, ça produit la conversion. Dieu veut sans doute, dans cette année de la miséricorde, comme nous l'invite le pape, à redécouvrir la réconciliation pour que les chrétiens deviennent de plus en plus vraiment chrétiens, vraiment convertis. Certainement, plus nous irons, plus notre église, notre paroisse sera convertie. Quelque chose qui est vrai là. Et c'est clair, si nous voulons être missionnaires ou même servir les pauvres, de la manière la plus juste, la plus chrétienne, il faut donc se convertir, il faut donc se confesser. Parce que c'est par excellence le lieu de la conversion. Le lieu de la conversion. Le sacrement de la conversion. Il est aussi appelé ce sacrement, le sacrement de la pénitence. Alors, pénitence, c'est un mot qui fait peur. Mais pourtant, ça veut dire une démarche personnelle et ecclésiale de conversion, de repentir et de satisfaction du chrétien pécheur. Conversion, on en a parlé. Pénitence, je vais développer des éléments. Et satisfaction, je vais en parler par la suite. Il est appelé encore ce sacrement, sacrement de confession, puisque l'aveu, la confession des péchés devant le prêtre, est un élément essentiel de ce sacrement. Il est appelé sacrement du pardon, puisque par l'absolution sacramentelle du prêtre, Dieu accorde au pardon le pardon et la paix. Il est appelé sacrement de réconciliation, car il donne aux pécheurs l'amour de Dieu qui réconcilie. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui vit de l'amour miséricordieux de Dieu est prêt à répondre à l'appel du Seigneur, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Donc ça, c'est pour les terminologies de ce sacrement. Voyons maintenant la structure du sacrement. Il y a deux parties. La première partie du sacrement, ça concerne les actes de l'homme qui reconnaît ses fautes. Les actes de l'homme qui reconnaît ses fautes sous l'action de l'Esprit-Saint. Voilà, on commence généralement en demandant, on rentre dans la confession en arrivant, en nous inclinant. Alors, je vous le dis parce que je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, vous avez droit de vous confesser comme vous voulez. Tous les chrétiens ont des devoirs, mais tous les chrétiens ont des droits, selon le droit canonique. Vous avez droit de choisir votre confesseur et la manière dont vous voulez vous confesser. Et personne, aucun prêtre ne peut vous l'empêcher. Vous avez droit de choisir la chaise, le prie-dieu, le confessionnal. Ça fait partie de vos droits. Voilà, sachez-le. Et avec le prêtre. Donc c'est pour ça que sur la paroisse, on vous donne plusieurs créneaux avec plusieurs prêtres. Comme ça, vous êtes libre, à mesure du possible, de choisir. Voyez. Donc ça, c'est important. Quand vous allez vous confesser, donc on demande au Père de nous bénir, et généralement on commence par un acte de regret. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères. C'est très intéressant, les frères ne sont pas là. Oui, mais c'est un lien ecclésial, mystérieusement, ce que je vais faire, que j'ai péché. Et là, c'est très intéressant, on déploie les types, en pensée, en parole, par action et par omission. Pensée, on y pense. Parole, on n'y pense pas vraiment. Action, on y pense. Omission, on le met toujours. Pensée, on y pense. Très bien. Alors, je m'arrête sur la pensée. Alors là, je fais un petit peu de spiritualité, mais c'est important. Il y a des gens qui sont blessés par leur pensée, par l'orgueil, par la sensualité, par plein de choses, l'avarice, ok. La mémoire est touchée. Ça ne veut pas dire que vous avez péché. Dieu peut laver votre mémoire, mais Dieu peut la laisser. La pensée qui vient, même dans la prière, n'importe quoi, c'est pas un péché. Ça devient un péché quand il y a une ferme adhésion à la pensée. C'est très différent. Si vous luttez contre cette pensée, c'est pas un péché. Et dans le combat spirituel, il y en a qui ont plein de pensées, mais c'est pas un péché. Il faut lutter. Vous voyez ? C'est quand on adhère à cette pensée. Par contre, si j'adhère à cette pensée, mystérieusement, il y a des choses qui se démultiplient. Voyez, généralement, je ne prie pas assez, j'ai des mauvaises pensées. Je concède à ces pensées, je commence à adhérer de plus en plus, j'en fabrique d'autres, je pose des actes. Il y a une gradualité de la gravité du péché entre l'oubli de la prière qui conduit à la pensée qui va mener à l'acte, quel qu'il soit, voyez. Évidemment, l'acte est plus fort, mais souvent, ça s'est combattu parce que la prière n'a pas été là, soit pour une demande de force, soit une omission, voyez. Ça, c'est important. En pensée, en parole. Alors, on oublie de dire la parole, mais qu'est-ce qu'on pêche par la parole? Et moi, le premier, parole d'orgueil, parole de critique, manque de gratitude. C'est du venin. Voilà, ne critiquons pas. Donc là, il y a un vrai examen de conscience. Et c'est l'exemple de Philippe Néri, grand confesseur devant l'Éternel. Une personne vient le voir, lui dit « Mon père, j'ai été médisante ». Philippe Néri va lui donner une pénitence très, très astucieuse. Il va lui dire « Vous allez prendre un coq au marché et vous allez le déplumer ». Alors après la confession, la dame, elle achète un coq, elle le déplume dans la ville. Bizarre. Elle arrive en confession, à nouveau, elle dit ben, « j'ai encore été médisante ». Et Philippe Néri lui dit « Maintenant, vous allez chercher les plumes ». Eh bien, c'est impossible, mon père. Et le saint lui répond « Ben, voyez, on ne peut pas récupérer la médisance. C'est parti, partout. » Donc, la parole fait beaucoup de mal. On peut tuer par la parole. En pensée, en parole. Par l'action, voilà. Je ne cite pas trop, mais l'action, on connaît généralement. Mais par omission, on omet toujours l'omission. C'est gênant, hein. L'omission, c'est ce que j'aurais dû faire à Dieu, aux autres ou à moi-même, et que je n'ai pas fait. Il aurait peut-être fallu que je me couche, que je prenne soin de moi, que j'aille me soigner. Ça fait 10 fois qu'on me l'a dit. Peut-être que j'ai oublié de prier, ça on y pense. Mais qu'est-ce que j'aurais dû faire à mon prochain que je n'ai pas fait? Voyez, notre vie chrétienne n'est pas auto-centrée, elle est communionnelle, elle est pour les autres. Donc l'omission, il faut réfléchir à ça. Et certainement dans cette année, par rapport aux œuvres de miséricorde spirituelles et matérielles, qu'est-ce que j'ai omis de faire? Un pauvre dans la rue, est-ce que je lui ai souri? Est-ce que j'ai tendu la main à quelqu'un? Est-ce que j'ai dit l'évangile à quelqu'un? Des fois, on omet le courage de dire la bonne parole. Vous voyez, j'ai omis de rendre témoignage au Seigneur. Hein, on peut dire plein de choses. Hein. L'omission, c'est réel. Voilà. Le Seigneur ne demande pas des choses impossibles que nous n'avons pas à faire. Mais dans la certaine mesure, nous avons des choses à faire. Est-ce que nous les omettons? Voilà. Donc je confesse à Dieu, Tout-Puissant, je fais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie les anges et le Seigneur et vous aussi, mon Père, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Voilà. Donc à ce moment-là, on se prépare à la confession. Le prêtre nous bénit et on dit ses péchés. Et généralement, il y a plein de tactiques. C'est le confesseur qui parle. Il y a le petit péché, le petit péché, le petit péché. Achoum, le gros péché, on continue par le petit. Ou alors il y a ceux qui se concentrent, font leur transpiration, le gros, c'est passé, puis après les deux petits, c'est fini ou autre. D'accord. J'en ris, hein. Il faut rire. Hein. Ce qui est très important, dites tout et soyez précis. Il ne s'agit pas, le prêtre ne va pas gratter comme un vicelard. Et je pense que nos frères aînés sont blessés et il faut prier pour eux par rapport au sacrement parce que à une époque, ils avaient peut-être des listes en disant « j'ai péché contre le premier, le cinquième, le neuvième commandement ». C'était une grille juridique très forte. Ou alors le prêtre était peut-être une aiguille, je ne sais pas, il creusait très fort, un peu inquisiteur. Ils ont été très blessés. Je n'ai pas connu cette époque. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut dire son péché. Et parfois, la personne raconte toute sa vie, mais pas ses péchés. Non, on est là pour se confesser, il faut dire son péché, quoi. Genre, je voudrais une solution, mon père, parlez-moi, etc. Non, c'est pas le lieu, on parlera après. C'est pas le lieu de l'accompagnement spirituel. C'est pas le lieu de me raconter votre vie, mais votre péché devant Dieu. Donc là, le prêtre peut recentrer si c'est nécessaire. Et c'est bénéfique. C'est l'aider de faire ça. De dire les péchés. Et des fois, il y a un manque d'examen de conscience. La personne n'a pas su faire un bon examen. C'est-à-dire, un examen, c'est vis-à-vis de Dieu, en quoi j'ai péché en pensée, en parole, par action et mission, vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des autres. Et à ce moment-là, vous pouvez même écrire, si ça vous aide, votre confession, et la dire, et après vous la déchirez parce que c'est détruit. parce que tout péché qui est confessé est pardonné. L'ardoise, elle est nettoyée, il n'y a plus de craie sur l'ardoise. C'est très important. Si nous omettons un péché par ignorance, mais Dieu voit notre bonne volonté et nous le pardonnera. Mais si nous omettons un péché, en version je dis ça, mais je garde le gros dossier parce que non, ça ne passe pas là. Dieu ne le pardonne pas. Le prêtre peut avoir la grâce, comme le curé d'Ars, comme d'autres saints, de dire « Excusez-moi, mais vous n'avez pas dit ça. » Il peut avoir la grâce de voir dans les cœurs. Tous les prêtres ne l'ont pas. Personnel, je ne l'ai pas. Mais Dieu voit toujours les cœurs. Et c'est notre honnêteté ou notre négociation. Il faut être vrai. Il faut être vrai. On n'est pas là pour être jugé parce que le prêtre ne peut pas dire le péché après la confession. S'il le faisait, il est excommunié directement. Au Moyen-Âge, on a torturé les prêtres pour savoir ce que le truand du coin faisait. Mais ils sont morts, les prêtres. Et ils sont tout à fait normaux parce que Dieu détruit le péché. Vous voyez ? Donc ça, c'est très important d'avoir confiance que là, on se confesse à quelqu'un qui est une tombe. Mais il faut dire le péché. Vous pouvez être précis combien de fois. L'enjeu n'est pas de vous écraser, de m'écraser, de nous écraser. L'enjeu, et les prêtres, les premiers se confessent, hein, ils en ont besoin. On ne peut pas être ministre de la miséricorde si on ne se confesse pas nous-mêmes. Mais l'enjeu est à découvrir une vraie haine du péché, et non pas du pécheur. Dieu a un amour du pécheur, de celui qui est blessé, mais il a une vraie haine du péché, parce que c'est contre nature à ce qu'il est. Là, je m'arrête sur un enseignement du pape François, qui est excellent, qui parlait aux prêtres de Rome en disant « Un bon confesseur n'est ni laxiste, ni rigoriste. » C'est deux tendances à éviter. Le rigoriste, qui semblerait la première tendance, c'est celui qui va enfermer dans des cas et non, ça n'a pas été bien, tac, 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 non, désolé, désolé. Bon, il n'y a pas de joker pour moi, désolé. Très bien, ça c'est un peu sec. Dieu est miséricordieux et nous avons des frères et sœurs qui vont tomber dans les mêmes péchés et qui avec le temps vont s'en sortir. Alors ils pourraient dire, mais alors pourquoi se confesser si je retombe? Mais béni soit le Seigneur d'y aller, parce que si on n'y avait pas allé plus tôt, on serait tombé plus souvent. Donc c'est une aide. La guérison peut être progressive ou instantanée. Vous avez des frères qui ont été guéris de pouvoirs occultes ou de grandes addictions une seule fois par la confession. D'autres, ça va être progressif. Et le Seigneur demandera une lutte, une conversion permanente. Mais il les soutiendra par la confession. Voilà. Et que s'ils ne s'appuient pas sur le Seigneur, ils iront plus bas. Donc ça, c'est vrai. Donc ça sert à ça. Et il ne faut pas se décourager, même si on retombe dans les mêmes péchés, parce que ça prendra du temps, peut-être. Mince, qu'est-ce que je disais ? Laxiste, maintenant. Le laxiste paraît très bien, me dirait le pape François. Il est cool, il est sympa, etc. Mais il ne soigne pas la plaie. Un médecin, ça dit la plaie, ça nettoie la plaie, ça donne le médicament. Un prêtre rigoriste vous condamnera. J'espère de tout mon cœur ne pas l'être. Un prêtre laxiste, j'espère de tout mon cœur ne pas l'être non plus. C'est juste du dentifrice dessus, de la crème, mais il y a la plaie toujours là. Il faut nommer le péché. Il faut apprendre à le haïr. Et avec miséricorde, aider la personne à s'en sortir. Voyez, ça c'est juste. Le Christ n'est ni laxiste ni rigoriste. Il voit la femme adultère, il dit « C'est pas ton mari. » Ah, mais ne pêche plus après. Voyez, il dit la vérité, mais il ne condamne pas. Il y a amour et vérité se rencontrent. Ni laxiste, ni rigoriste. Voilà. Et c'est adapté au cas par cas. Ça c'est très important. Dans la pédagogie de Dieu aussi, avec le prêtre, nous apprenons à hiérarchiser les péchés. Eh oui, il y a peut-être le gros péché qui me rend honteux, qui n'est pas le gros péché, en fait, que Dieu veut en premier que j'avance, que je travaille dessus. C'est avec le prêtre que je vais découvrir telle ou telle chose à faire. Vous voyez, ça c'est très important. C'est la mise en lumière. Donc je reviens maintenant sur la structure. On dit ces péchés. Donc c'est la première partie, c'est l'aveu des péchés. Et souvent, on commence par quelque chose qui ressemble à, comment dire, un regret de ne pas être parfait. Seigneur, j'ai pas été bien, mais c'est très auto-centré. Nous progressons dans la confession quand nous découvrons qu'en fait, nous avons fait mal à Dieu et à nos frères. Et donc, quand vous préparez un examen de conscience, diraient les moines, par exemple, passez, si vous avez 10 minutes, passez-en 5 à regarder Jésus, d'abord. À regarder Jésus en croix, qui est mort pour nous, et dont le péché l'a blessé. Prendre conscience que le péché, tout péché, envers Dieu, envers moi, envers mon frère, est toujours une offense à Dieu. Et après, scrutons-nous, avec le Saint-Esprit, le mieux possible. Et à ce moment-là, la confession, c'est le regret du péché que nous avons fait vis-à-vis de Dieu. Pas simplement le manque de perfection qu'on aurait aimé avoir parce qu'on a été touché dans son ego. Ça, c'est pas la confession. Voyez, c'est important. Et Saint Ignace, c'est très important pour lui parce que dans la première année, semaine d'exercice spirituel, on peut demander la grâce de pleurer son péché. Il y a des gens qui pleurent en confession. Je vous assure que c'est une grâce. Parce que là, il y a un vrai regret du péché. Et pas le pleur de « je suis un pauvre type ». Le pleur de « Seigneur, je t'ai fait mal ». Voilà. Sentir cela, c'est on est dans le bon chemin. On est dans le très bon chemin. On n'est plus insensible. Vous voyez, le cœur s'est ramolli. Il commence à aimer son Seigneur et à vouloir sortir du péché. Vous voyez, ça, c'est important. La deuxième chose, c'est l'intervention de Dieu. Une fois que le péché a été entendu, le prêtre peut, le plus court possible, dire tel ou tel péché, hiérarchiser, vous donner un élément de conversion, un point d'effort, vous dire en lumière des choses, une parole rassurante, quelque chose, avec la parole de Dieu ou pas. Et à ce moment-là, il vous invitera à rejeter le péché, à choisir le Seigneur, une vie nouvelle. Et il vous proposera même une pénitence. Vous parlez de la pénitence a une double vertu. Saint Augustin dit que Dieu nous a créés sans nous, mais il ne nous sauvera pas sans nous. Elle nous fait collaborer à notre salut. Donc la pénitence, c'est rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est une œuvre de justice. J'ai abîmé quelque chose, j'ai demandé pardon, j'ai volé quelque chose, j'ai demandé pardon. Maintenant, il faut que je répare, il faut que je rembourse. Et donc, la pénitence, c'est ma participation à ma conversion, à ce qui a été désordonné. Mais c'est aussi une vertu médicinale. Ça me redresse, ça me guérit. Donc l'œuvre de pénitence, il faut toujours qu'il y ait une réparation après. C'est bon, voyez. Et c'est notre dignité. Et on pourrait dire, bah non, c'est encore la galère. Mais les grands pécheurs, ou ceux qui ont fait des grandes choses graves dans leur vie, je vous assure que leur grande dignité, c'est de dire au Seigneur, et ils le sont intérieurement eux-mêmes, j'aimerais tant réparer. Vous voyez, il y a un appel intérieur à la pénitence. J'aimerais tant réparer ce que j'ai fait, pour être meilleur, pour être acheté. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. Et j'ai été pardonné, et je participe à ça. Et donc le prêtre donne la pénitence à ce moment-là, et la personne va dire son acte de contrition. Très important, la contrition. La contrition, c'est quoi? C'est l'expression d'un cœur qui a la douleur d'avoir offensé Dieu par le péché. Alors des fois, il y a vraiment une grâce qui est accordée, la personne en pleure, je vous disais, de ses péchés-là. Mais des fois, la personne ne sentira rien, disant « Non, je n'ai pas le cœur contrit, j'aime pas beaucoup Dieu ». Si nous avons le ferme décision dans la foi de ne pas offenser Dieu et de regretter dans la foi notre péché, nous avons un cœur contrit. La vie spirituelle n'est pas d'abord une vie sensible. Hein? C'est important. Et vous avez des frères qui ont du mal à examiner leur péché. Et la première contrition, ça va être de dire « Seigneur, je regrette de ne pas voir mon péché, mais je te demande pardon. » Voilà, j'aimerais le voir. Ne vous inquiétez pas, ça viendra. Voilà, ça c'est important. La contrition. La confession des péchés et la satisfaction, ça sera la pénitence à faire, etc. Vous voyez, ça c'est la structure. Et à ce moment-là, que dit le prêtre? Le prêtre dit cette parole suivante, que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde par la mort et la résurrection de son Fils. Il a réconcilié le monde avec lui. Il envoie l'Esprit Saint pour la rémission des péchés par le ministère de l'Église qu'il vous donne le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Là, en condensé, vous avez l'histoire du salut, vous avez l'intervention de la Trinité, et c'est le Christ, in persona Christi, c'est le prêtre in persona Christi qui vous donne le pardon. Et là, vous pouvez être assuré que vous êtes pardonné. Cette expérience-là, c'est une expérience paternelle de Dieu. Hein? Il y a des frères et sœurs qui sont blessés par rapport à Dieu le Père, Père Fautard ou je ne sais quoi. Allez vous confesser. Vous verrez que Dieu est bon. Vous verrez que Dieu est bon. Vraiment que Dieu est bon. Donc cette grâce-là, elle est pour tout le monde. Elle est pour chacun d'entre nous. Et je vous invite vraiment à y aller de bon cœur. l'Église nous invite à, même si c'est dur au départ, l'Église, alors, deux éléments, après j'arrête, confession individuelle, confession collective. La maison brûle, je suis sur un bateau, on est tous ensemble, vous avez le droit de vous confesser collectivement. On ne peut pas faire autrement, tout le monde sera, on peut faire une absolution collective. Mais à condition que vous auriez la vraie décision intérieure de vouloir changer de vie, de regretter votre péché, et que si le bateau ne coule pas et qu'on éteint le feu, vous preniez la décision après d'aller vous confesser à un prêtre. Ça oui, mais à ce moment-là, c'est possible l'absolution collective. Mais sinon, dans tous les autres cas, c'est impossible. Je le dis clairement, c'est pas moi, c'est l'Église catholique qui le redit. La confession sacramentelle efficace, c'est le pardon individuel des péchés. Sauf situation d'urgence. À mon sens, je ne connais pas de situation d'urgence pour le moment. Voyez ? Donc il faut être clair. Et on voit bien que on peut faire une préparation collective, c'est très bien, parce qu'il y a une notion communautaire de culpabilité qu'il nous faut. Ouais, c'est mon péché a touché mes frères. On peut se préparer. Mais le sacrement sera toujours personnel, vous voyez. C'est très important parce que nous avons besoin de cette lumière de Dieu qui éclaire ma conscience, de ce Seigneur qui vient me toucher dans son incarnation. Et on voit, souvent, le sens moral va s'amoindrir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quelle fréquence? Et après, j'arrête là. La fréquence, l'Église nous demande une fois par an. Et moi, je vous inviterai une fois par mois. Si vous voulez avancer vers le Seigneur réellement, prenez une fois par mois pour commencer. Amen.